je ne vois plus Magali.
Ah si, voilà, pardon, elle s'est coupée.
Bon, ben, je commence et puis Magali continue. C'est ça. On a prévu un petit peu. Pardon. Oui. Bon, alors, on a prévu effectivement quelque chose à devoir, mais c'est vrai que comme on... Au début, tout un temps, on avait proposé, on s'était dit, on va faire un truc en alternance, l'un à l'autre, etc., etc. Puis c'est un peu compliqué, donc je vais commencer, faire une grande partie, et puis Magali continuera. Sachant que je vais peut-être être un peu plus théorique, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais en tout cas, Magali sera beaucoup plus les pieds sur terre. Elle vous dira des tas de choses sur la création, et puis peut-être sur le réseau Bible et Création, voilà, auquel nous appartenons tous les deux, mais elle plus que moi. Voilà. Alors le thème, c'est Bible et théologie, c'est ça? Écologie et théologie, oui, pardon, Bible et théologie, voilà. Écologie et théologie, voilà, effectivement. Et moi, ça sera plutôt Bible et écologie, voilà. Mais... De toute façon, la théologie, c'est aussi de la Bible. Donc, on va... Alors, de toute manière, ça, c'est une conviction personnelle, je crois qu'il n'y a pas besoin de la Bible, il n'y a même pas besoin d'être croyant en Dieu pour s'engager dans la lutte pour la sauvegarde de la vie sur la planète. Comme dirait l'autre, le chantier est largement ouvert à ceux qui croient au ciel et à ceux qui n'y croient pas. Et je dirais même qu'en ce qui concerne les croyants, ceux qui se joignent à cette entreprise n'ont absolument pas besoin de se justifier du recours aux Écritures. Le commandement de l'amour du prochain, à mon avis, suffit amplement. Et même le mot « prochain » y gagne. Parce que si on pense effectivement à l'écologie, on peut se dire que le prochain, ce n'est pas seulement le voisin, géographiquement parlant, mais c'est aussi le prochain dans le temps, celui qui va venir à l'être, et puis celui qui appartiendront aux prochaines et même peut-être aux lointaines générations. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir la Bible donc pour procéder au tri des déchets, économiser l'eau, préférer le vélo à l'autobus et l'autobus à la voiture individuelle. Mais il se trouve que dans la Bible aussi, et peut-être déjà, ben, il y a quelque chose qui touche un peu à l'écologie. Pensez au récit du déluge, par exemple. Pensez à l'histoire des plaies d'Égypte. C'est des catastrophes écologiques, les plaies d'Égypte. Pensez à l'histoire de la traversée du désert par les Hébreux, puis d'autres choses. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose, me semble-t-il, qui évoque ce que nous appelons l'écologie aujourd'hui. Car la Bible ne parle pas seulement de la nature, mais aussi du rapport entre la nature et l'être humain, la place de l'être humain dans le contexte de l'environnement de la planète. Et ça, je crois que c'est déjà de l'écologie. Et puis même en fouillant un petit peu, il me semble que certains concepts importants qui nous sont maintenant très très familiers ont peut-être une racine dans la Bible. Alors, soit qu'ils sont nés de la lecture de la Bible, soit qu'ils sont nés en réaction à certains textes bibliques. Je pense au concept de croissance. Est-ce que l'idée de croissance ne viendrait pas par hasard du « croissez et multipliez » de la Genèse? Et puis, il y a quelque chose de tout à fait amusant, c'est le concept de « grande distribution ». Est-ce que vous savez d'où vient cette expression, la grande distribution? Eh bien, un jour, il y a un ancien séminariste, donc quelqu'un qui connaissait bien la Bible, un ancien séminariste qui s'est dit en pièce énigme, c'était formidable cette histoire de la multiplication des pains. Hein, et voilà, tout c'est l'histoire des disciples comme ça, qui distribuaient comme ça le pain en abondance. Eh bien, moi, je vais faire pareil, mais de façon plus moderne. Et il l'a fait. Il s'appelait Édouard Leclerc. Et il a inventé l'expression « grande distribution » en référence à l'histoire de la multiplication des pains. Alors oui, comme ça, il y a des croisements. Alors, la grande distribution, c'est pas vraiment écolo. Hein, faut dire ce qui est. Mais ça touche quand même à notre rapport à l'agriculture, à tout ça. Alors, plus écolo, c'est vrai que certains des précurseurs de ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui ont été des commentateurs de la Bible. Alors, si on remonte pas mal dans le temps, on trouve quand même quelqu'un comme Henry David Thoreau aux États-Unis. Je ne sais pas si vous savez qui est M. Thoreau, mais c'est quand même un des maîtres de l'histoire. Enfin, donc c'est au 19e siècle. Alors, en France, beaucoup plus récemment, bien sûr, il y a Jacques Ellul. Jacques Ellul, quand même, c'est celui dont se réclament des gens comme José Bové. Il se réclame de Jacques Ellul. Et Jacques Ellul a été aussi, entre autres, parce que alors, il a de multiples casquettes, Jacques Ellul, mais il a été aussi, bien entendu, commentaire de la Bible et notamment de l'Apocalypse. On peut parler en France. Ah oui, je n'ai pas sorti mes bouquins, pardon, j'aurais dû. Alors, pardon, je sortirai un bouquin. Voilà. J'ai eu le... Celui-là, j'y tiens parce qu'il est intéressant. Il date de 75, donc c'est pas tout à fait récent. En 1975, Alain Bombard était venu au synode de notre Église réformée pour nous parler toute une soirée sur l'écologie. Donc en 75, et c'était pour présenter son livre qui s'appelait « La dernière exploration ». Voyage dans un monde qui se meurt. Et si vous lisez, donc, c'est pas récent, mais finalement, il n'y a pas grand-chose d'obsolète là-dedans. C'est très, très actuel. 75. 75, Alain Bombard, et puis comme il tombe, je vais le ramener. Alors, beaucoup plus tard, alors là, on est dans les années 80, 86, ça, c'est Karl Friedrich von Weizsäcker, qui à l'époque était président de la République fédérale d'Allemagne, et qui était physicien aussi, qui a écrit ce livre « Die Zeit drängt », « Le temps presse ». Et il appelait donc à un rassemblement mondial des chrétiens pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création. 1986. Ben, tous ces gens-là, donc... alors Bombard, je ne sais pas trop, hein, mais en tout cas Jacques Ellul... Karl Friedrich von Weizsäcker, tout ça, ce sont aussi des lecteurs de la Bible. Et puis, bien sûr, si on est dans ce domaine, on ne peut pas oublier Théodore Monod. Donc, voilà, on a quand même des grandes figures de ce qu'il faut dire de l'écologie. Alors, le problème avec ce mot d'écologie, c'est qu'au départ, l'écologie, ça devrait être une science. Et puis, c'est devenu un mouvement, c'est devenu parfois même une idéologie, c'est devenu. Les partis politiques, donc on ne sait pas trop quand on parle d'un écologiste, c'est un peu bizarre. Donc voilà, de manière assez générale, tous ces gens-là qu'on peut, me semble-t-il, qualifier d'écologistes sont des gens qui ont lu la Bible. Et alors du coup, je vous propose ce soir peut-être de tenter de faire une sorte de parallèle entre l'approche de la Bible et celle du monde des vivants dans une visée écologique. Ça peut paraître déjà bizarre, cette histoire-là. Je comprends. Alors, je vais essayer de préciser. Modestement, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'écologie. Hein. Je suis un amateur, bon, au sens d'aimer aussi. Je connais un petit peu mieux la Bible, peut-être. Mais ce soir, donc, je voudrais vous parler en tant que bibliste, mais pas de la Bible, en tout cas, pas de la Bible seulement, mais aussi d'écologie. Et donc, partager une sorte d'intuition. L'intuition selon laquelle, dans leur rapport au monde des vivants, certains d'entre nous entretiennent une approche que je qualifierais, sans être péjoratif, de juridique, renvoyant à une certaine loi qui serait plus ou moins écrite. D'autres, me semble-t-il, ont une position qui rappelle celle des prophètes, lesquels sont aussi effectivement en rapport avec la loi. Et puis... Alors, je vais mélanger mes feuilles. Et puis donc, d'autres ont un rapport, je dirais, qui est de l'ordre de la sagesse. Alors, il faut que je remette mes feuilles dans l'ordre, parce que sinon, ça va plus, allez. On va couper le montage, hein, si vous avez enregistré tout ça. Voilà, allez. Voilà, en référence à la loi, voilà. Et d'autres, donc, ont une approche que je dirais qui est plutôt de l'ordre de la sagesse. Alors, pour les gens qui sont un petit peu habitués à la loi, enfin à la Bible, vous avez peut-être retrouvé dans ce que je viens de dire les trois grandes parties de la Bible hébraïque, à savoir la Torah, les prophètes, les Nevi'im, et les écrits, les Ketuvim, qui sont souvent des ouvrages de sagesse. Et puis, si on pense au Nouveau Testament, au régime chrétien, ben on peut se dire qu'il y a aussi ces mêmes approches, parce que finalement, on n'a pas le même rapport à la lecture de la Torah, à la lecture des prophètes, à la lecture des écrits, et de la même manière, on n'a pas le même rapport à la lecture des évangiles, à la lecture de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse est le livre prophétique du Nouveau Testament, ou à la lecture des lettres, que ce soit de Paul, de Jacques, de Pierre ou de Jean. Les livres de la Torah et les livres ou les évangiles, ce sont les livres qui rappellent les origines. Ce sont les livres des pères fondateurs, que ce soit Moïse, Abraham, Moïse ou Jésus. Et puis d'un côté, donc ça c'est un rapport et aussi un rapport à la loi. Peut-être, pensez en tout cas dans le Nouveau Testament, Sermon sur la montagne. Les livres, je dirais, prophétiques, ce sont des livres qui émanent de gens qui se sont impliqués dans leur histoire. Et le livre de l'Apocalypse, par exemple, est très impliqué dans l'histoire du premier siècle, puisqu'on y voit la figure de l'empereur qui se dessine à certains passages. Et puis, par contre, les écrits de la sagesse, je dirais, ce sont des écrits qui ouvrent sur une perspective beaucoup plus large, universelle. Hein, il y a de la sagesse dans toutes les civilisations. Mais ainsi, me semble-t-il, qu'il y a un rapport que certains écologistes entretiennent avec le monde, un peu le même rapport, un peu un rapport, soit un rapport juridique, un rapport avec une loi, soit un rapport à un mouvement prophétique, soit un rapport à la sagesse. Bon, donc voici mon plan. L'écologie est l'idée de loi, l'écologie comme mouvement prophétique et l'écologie comme expression de la sagesse universelle. Et ces points de vue, chacun ne s'excluant pas mutuellement, bien entendu. Et puis, si vous le supportez, j'aimerais illustrer mon propos par trois lectures différentes d'une courte parabole de Jésus. Alors, cette parabole, je vous la livre d'emblée, on la trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, c'est le petit texte que je vous ai donné sur vos feuilles, donc il est trois fois dans vos feuilles. C'est trois fois le même texte, mais pas dans la même disposition. Jésus disait, « Le royaume de Dieu est comme cela. Un homme jette la graine sur la terre. Il dort, il veille nuit et jour, la graine germe et croît, en sorte qu'il ne sait pas comment. » D'elle-même, la terre porte du fruit. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé dans l'épi, puis le fruit mûr, et immédiatement, il envoie la faucille, car la moisson est arrivée. Donc ça, c'est Marc 4, les versets 26 à 29. C'est le texte que vous avez sous les yeux, j'espère. Alors, j'ai bien sûr choisi ce récit parce qu'il évoque... une agriculture d'autrefois. Hein, c'est une agriculture, on peut penser à certains tableaux de Millet, par exemple, ou de Van Gogh aussi, hein, des tableaux du 19e siècle. Et dans cette histoire, on voit une action linéaire. On voit un homme qui sème et récolte quand le fruit est mûr. C'est plus tout à fait le cas chez nous. Ici, donc, il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas d'OGM. On n'achète pas la récolte avant que le grain soit semé. On ne récolte pas des fruits verts pour les expédier en par camion frigorifique à travers toute l'Europe. On ne mélange pas le cours du blé et celui du gasoil. Et si le royaume de Dieu est ainsi, on pourrait se dire alors nous sommes obligés de revenir en arrière. Le royaume de Dieu serait seulement accessible au prix d'un impossible retour en arrière vers une sorte d'Éden d'autrefois, avec des rapports simples entre les vivants. Et alors peut-être que déjà à l'époque de Jésus, les gens percevaient cette parabole comme étant d'un autre temps. L'époque de Jésus, c'est une époque où les paysans de Galilée, par exemple, se sont dû affronter la concurrence des marchés extérieurs. Ils étaient insérés comme ça dans l'Empire romain, dans une économie qui pratiquait l'esclavage, alors qu'eux essayaient de ne pas trop le faire non plus. Donc il suffisait amplement les aléas de la politique agricole commune à l'Empire romain. Et peut-être que tout n'était pas aussi simple. Donc on a l'impression que cette parabole, elle nous ramène au bon vieux temps. Et donc là, j'aborde mon premier point, puisqu'on peut penser que cette parabole bucolique est une illustration donc de ce bon vieux temps, selon un retour en arrière. Et c'est vrai que les écologistes sont souvent qualifiés ou caricaturés comme des partisans du retour en arrière. On a tous entendu dire l'écologie, ben c'est le retour à la bougie, d'ailleurs ça rime, écologie et bougie. C'est le vélo, même pas électrique. C'est la marine à voile. C'est les moulins à vent, les couches en coton bio, c'est qu'il faut laver au savon de Marseille, c'est tout ça l'écologie. Peut-être pas toujours et pas que ça en tout cas. Mais c'est vrai que sérieusement, l'écologie, c'est pour certains le respect d'une norme, de loi qui nous précède. Ce sont les fameuses lois dites de la nature. Des lois dont nous avons cru pouvoir nous affranchir sans nous rendre compte que nous, et puis nos enfants, et peut-être nos petits, nos arrière-petits-enfants, auront à en payer un prix qui pourrait être exorbitant. Le bouquin d'Alain Bombard s'ouvre par une double page. Alors il était très pédagogique, c'était des choses assez nouvelles à l'époque, où on décrit ce qu'est un écosystème. Alors il y a tout un... Bon, je ne vous montrerai pas parce qu'on n'y verrait pas grand-chose de loin de toute manière. Donc il y a toute une double page sur le fonctionnement d'un écosystème. Voilà comment fonctionne un écosystème, comment il devrait en tout cas fonctionner. Et c'est vrai que pendant des millénaires, le monde a fonctionné comme ça. La Terre est devenue ce qu'elle est grâce à ses équilibres, parfois fragiles, que diverses innovations ou exploitations, surexploitations ont mis à mal. Or, de plus en plus, nous savons comment ça fonctionnait, et puis nous savons comment maintenant ça ne fonctionne plus aussi bien. Nous savons même parfois où et quand exactement les humains ont franchi la norme, comment ils ont commencé à faire basculer le monde des vivants dans un processus d'appauvrissement. Et peut-être pas forcément irréversible, mais difficilement réversible en tout cas. Alors je pense par exemple à l'exemple historique de l'île de Pâques. Vous savez que l'île de Pâques a subi une déforestation dramatique et tout l'équilibre écologique de l'île a été complètement bouleversé et détruit. Je pense aussi, par exemple, un exemple beaucoup plus contemporain, c'est l'histoire des forêts équatoriales d'Amérique latine, l'Amazonie par exemple, d'Afrique. Et puis la question des sols, lessivés maintenant par les pluies, et qui ont perdu toute valeur nutritive. Voilà, c'est comme s'il y avait une loi et qu'enfreindre la loi entraîne des conséquences et presque une punition, j'allais dire. Et quand on se situe dans une perspective biblique ou théologique, ça s'appelle tout bêtement le péché. Alors bien sûr, le mot fait sourire, hein. Mais il n'en reste pas moins que quand Paul décrit ce qu'est le péché dans l'Épître aux Romains, ben je trouve qu'il décrit parfois le sentiment que nous éprouvons par rapport à la nature. À savoir, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Alors je sais que parler ainsi, c'est culpabilisant. Et c'est vrai que les écologistes sont souvent apparus comme des gens culpabilisés et culpabilisants. Et pourtant, cette idée qu'ils partagent avec les croyants, notamment juifs et chrétiens, donc c'est tout simplement qu'il y a une loi à l'origine et que celui qui enfreint la loi devra un jour ou l'autre en subir les conséquences. Alors c'est une idée qui n'est pas plaisante, mais je trouve qu'elle s'impose d'une certaine manière, comme s'impose aussi cette idée que le péché n'est pas seulement, si on utilise le mot péché, une entreprise individuelle. Hein, on n'est pas seulement pécheur individuellement, on n'est pas par rapport à la nature aussi, mais il y a aussi des péchés collectifs et même sociétaux. Et ces péchés, il nous faut les reconnaître déjà, et les affronter. Dans la Bible, affronter le péché, c'est se mettre en route vers la sainteté. Soyez saints, dit Dieu, car je suis saint. Être saint, ce n'est pas être parfait, c'est être en chemin. C'est être conscient de la route à parcourir, conscient de la vie des autres, avec le souci et la joie de vivre avec des prochains, qu'ils soient humains, animaux, végétaux, des vivants, à vivre avec nous. Une des phrases les plus marquantes du Deutéronome, c'est bien sûr « Choisis la vie afin que tu vives ». Et du coup, ici, c'est un commandement, c'est une loi. Choisis la vie. Ainsi donc, on peut concevoir l'écologie comme un respect de règles non écrite et à découvrir, de règles qui constituent une sorte de mode d'emploi pour vivre mieux et plus simplement pour continuer à vivre ensemble et plus longtemps sur la belle planète qui est la nôtre, une planète qui, jusqu'à la preuve du contraire, est la seule qui ait vu naître la vie. Alors cela n'implique pas forcément l'idée d'un Dieu prescripteur, mais cela peut y conduire. Comme l'idée d'un Dieu prescripteur peut aussi conduire des croyants à adopter une attitude plus responsable vis-à-vis de l'environnement et comme faisant partie d'un monde voulu et donné par Dieu. Alors, maintenant, si je me tourne vers notre parabole, là, comment cette approche s'incarne dans cette parabole? Et je vous propose une première lecture, donc, qui consisterait à voir dans cette parabole comme l'illustration de ce que le monde est créé par Dieu, et c'est un monde simple, stable et structuré. Alors vous savez que dans la Genèse, Dieu crée et sépare, et il donne à la terre des arbres, des herbes portant en eux-mêmes de la semence d'arbres et d'herbes selon leur espèce. Et il inscrit dans le vivant comme une loi immuable qui se perpétue de génération en génération. Or, il me semble que la parabole, lui, pourrait donc renvoyer à ce récit de la création en 7 jours. Et si on se souvient bien que dans le récit poétique de la Bible, la structure du texte est aussi porteur de messages, alors je vous propose de lire cette parabole comme 2 ensembles de 7 lignes. Et c'est le premier schéma donc sur vos feuilles, donc 7. Voilà, ça fait. Alors, Donc, le royaume de Dieu est comme cela. Un homme jette la graine à terre, et deux, trois, il dort, quatre, il veille nuit et jour, cinq, la graine germe et croît, six, donc la graine germe, cinq, six, et croît, en sorte qu'il ne sait plus comment. Voilà, là on aurait un ensemble de sept lignes. Et puis, de la même manière, la suite, cette ligne. D'elle-même, la terre porte du fruit. Hein, d'abord l'herbe, deux, puis l'épi, trois. Puis le blé, formé dans l'épi, quatre. Quand le fruit est mûr, immédiatement il envoie la faucille, car la moisson est arrivée. Donc chaque fois, ça fait chaque préposition, proposition si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette structure? Eh bien, je dirais qu'en cette étape, le semeur, homme et image de Dieu, jette la semence. Et puis se sépare de ce qui n'est plus déjà lui, et qui, à la septième ligne, échappe à sa connaissance. C'est-à-dire, on part comme ça, de l'homme qui jette la graine, qui se sépare, il dort, etc., etc., en sorte, il ne sait plus comment. Il n'est plus possesseur de cette graine, il la laisse au monde. Et puis, de nouveau, en cette ligne, il va la récupérer. La terre rend à l'homme ce qui est né en elle. Le semeur est devenu moissonneur. Il recouvre ce dont il s'était séparé. Et au centre de cette deuxième partie, il y a l'accomplissement, un grain parfait au sein de l'épi. Oui, parce que l'avantage du chiffre 7, c'est qu'on a quelque chose au milieu. Et ce milieu, ici, c'est puis le blé formé dans l'épi. Le blé formé dans l'épi. Voilà, c'est une proposition de lecture. Proposition de lecture qui peut permettre d'envisager finalement au croyant son rapport au monde dans la perspective d'un respect des lois de la nature données par Dieu. Alors les crises de la vache folle, la grippe H5N1, etc., etc., les OGM, le gaz de schiste, enfin on pourra multiplier les exemples à ce que j'ai appelé tout à l'heure des péchés finalement. Des choses de non-respect de ces règles qui sont dans la nature. Et du coup, apparaissent comme presque de nouveaux commandements, et je dirais des commandements peut-être plus stricts que ceux de Moïse. Des commandements du style « tu ne pollueras pas, tu ne nourriras pas ton bétail de farine animale, honore ta terre et tes mères. » Si bien que le royaume de Dieu, peut-être qu'il n'est ouvert qu'à ceux qui respectent le vivant, à ceux qui se plient patiemment aux lois voulues par Dieu. Alors, vous voyez que ça devient un petit peu restrictif à ce moment-là, si je parle comme ça. Et puis, c'est vrai que ce type de raisonnement, il a conduit des gens à refuser l'utilisation du vaccin, par exemple, parce qu'on disait que ce n'était pas voulu par Dieu, le vaccin. Et puis d'autres ont voulu aussi contester la péridurale à partir de ce type de raisonnement en disant, il est écrit, c'est tu donneras naissance dans la douleur, donc c'est dans la douleur que tu accoucheras. Donc vous voyez qu'il ne faut peut-être pas pousser trop loin cette histoire de loi de la nature. Ça peut être aussi un piège. Alors je vous propose d'envisager une approche un peu complémentaire de la première, et une approche qui se trouverait du côté des prophètes. Alors, les prophètes, qui sont les prophètes? Les prophètes, ce n'est pas forcément des gens qui annoncent l'avenir. Mais c'est vrai qu'il leur arrive d'en parler. Qu'est-ce que c'est un prophète dans la Bible? Un prophète dans la Bible, c'est quelqu'un qui actualise la Torah, la loi. C'est-à-dire qu'il dit le vieux texte de la loi, mais il le traduit aussi, le prophète. Il le traduit dans le contexte qui est le sien. Et d'une certaine manière, il confronte la loi ancienne à l'état actuel du monde. Et du coup, il anticipe sur ce qui advient. Alors, prophète, c'est un métier risqué. Et c'est vrai que les prophètes, rares sont les prophètes qui ont réussi. Il y a des prophètes qui ont réussi à faire passer le message. Mais ça n'a pas toujours été sans mal. Et même parfois, ça fait très très mal. Pensez à Jérémie, par exemple, ou des gens comme ça. Le prophète, donc, il prend les risques, il affronte tous les pouvoirs. Souvent, il marche à contre-courant. Il parle quand on lui dit de se taire. Il s'abstient de mugir à toutes les foules. Et puis, me semble-t-il, dans l'Évangile, Jésus est aussi un prophète et il trace des traits sur le sol quand on lui demande de participer à la lapidation d'une femme. Donc, le prophète, c'est aussi celui qui s'adresse au monde, non seulement par sa parole, mais avec son corps. Il parle au nom de Dieu pour obtenir un changement, une conversion. Une conversion alors qui pourrait conduire Dieu à faire grâce, mais qui pourrait aussi conduire à ce que la société soit plus juste. Et puis, si on essaie d'imaginer un prophète écologiste, se dire que, voilà, que le monde aille mieux, que l'air soit moins nauséabond, que l'eau soit plus potable et pour plus de gens, que la terre ou la religion soit moins polluée. Et surtout, donc, le prophète, il prêche l'exemple. Il parle avec son corps, avec sa vie. Donc, c'est Jérémie, donc, qui a mimé aussi son message. Jérémie qui ne s'est pas marié à cause de son message. A pensé aussi à Osée. Osée qui, lui, s'est marié, mais qui s'est marié avec une prostituée. Justement pour que son message puisse porter encore plus. Ça me fait penser, moi, à d'autres prophètes, des prophètes du XXe siècle. Je pense à Gandhi. Gandhi, quand il tisse son coton, et quand il va recueillir le sel au bord de la mer, et peut-être un certain nombre de gens, donc des écolos. Ainsi tentons-nous de faire, lorsque nos décisions de pensée globale et d'agir local, là essayons d'avoir un peu un comportement prophétique, et pour un peu cohérent avec ce que nous disons. Alors dans la Bible, le prophétisme, il évolue. Et ça va déboucher sur l'Apocalypse. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a encore une nouvelle caricature de l'écologie. Tout à l'heure, je parlais de l'écologie comme retour en arrière. Et puis on peut penser aussi écologie comme mouvement apocalyptique. L'Apocalypse, c'est un genre littéraire. Alors bon, qui est ancien, effectivement, mais de tout temps. Il y a eu des apocalypses. Et est-ce que la version, une des versions modernes de ce mouvement apocalyptique aujourd'hui ne serait pas l'écologie? Je pense que c'est une lecture qu'on peut avoir. Et il pourrait donc y avoir une dernière apocalyptique et prophétique de se vivre écologiste à force de se vouloir prophète dans un monde qui va mal. Ainsi, je pense que nos contemporains vivent aussi, d'une certaine manière, un peu une vision d'apocalypse, en tout cas une sorte de fin du monde, fin d'un monde. Et l'apocalypse, c'est les filles de la mondialisation. Aussi bien donc à l'époque ancienne qu'à l'époque moderne. Je parlais de l'Empire romain, c'est une sorte de mondialisation. Les partisans de l'apocalypse s'expriment en termes de destinée humaine, de jugement de tous, de remise en cause de toute vie, de remise en cause de la vie, tout simplement. Et nous savons que le monde aura une fin. Et nous pouvons également penser que bien avant cette fin, l'humanité aura mis elle-même un terme à son hégémonie sur la planète. Et c'est vrai que l'Apocalypse, d'une certaine manière, est déjà enclenchée. On peut faire une lecture apocalyptique de la parabole que je vous ai lue tout à l'heure. À la lumière peut-être de ce passage de la lettre de Jacques, où il est dit « Prenez patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. » Alors pour lire cette parabole un peu dans le sens d'une apocalypse, mais il faut l'interpréter comme une allégorie, c'est-à-dire d'essayer de voir comment chaque terme peut être interprété, peut être remplacé par un autre terme. Et par exemple, se dire que Dieu serait le semeur et le grand moissonneur de l'histoire. Alors on pourrait se dire, mais c'est une parabole qui répond à l'énigme du retard de la fin des temps. Il ne s'agit plus d'un homme, mais du monde. Le monde où germe le royaume. Un royaume qui souffre les douleurs de l'enfantement. Alors si je l'interprète comme ça, c'est qu'il y a d'autres paraboles qui sont très nettement connotées de manière apocalyptique. Je pense à la parabole de l'ivraie dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24-40. Dans la parabole de l'ivraie, on a le Satan, l'adversaire, qui vient semer de la mauvaise herbe où Dieu n'avait semé que du bon grain. Et du coup, le maître de la moisson, donc Dieu dit, bien, attendons, et viendra le jugement. Et le jugement, c'est le jugement de l'Apocalypse. La prise de conscience de l'épuisement des ressources naturelles, du réchauffement de l'atmosphère, l'impact des activités humaines sur les conditions de vie de la planète induit d'une certaine manière ce diagnostic. Les phénomènes que nous ne parvenons pas à enrayer provoquent le franchissement irréversible. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est l'Apocalypse. Nous vivons la fin d'un monde. Alors peut-être qu'il faut se souvenir que le mot apocalypse ne veut pas dire seulement donc fin du monde, hein, mais qu'il veut dire aussi révélation. Et puis la fin du monde, pour les prophètes d'autrefois, c'est l'intervention de Dieu dans l'histoire. Pour nous, c'est la simple conséquence de l'épuisement des ressources naturelles et puis d'un trop grand nombre d'activités polluantes et dangereuses. La moisson n'est plus celle de Dieu qui trie le bon grain de l'ivraie du diable, elle est la récolte par les humains de ce qu'ils ont eux-mêmes semé. Je pense à l'apôtre Paul, dans la lettre aux Galates, « Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il récoltera. » Ce que l'homme a semé, nous, et encore nos enfants, nous sommes en train d'avoir le commencement de la mère récolte. Alors il faut lire Paul jusqu'au bout. Et dans les Galates, il poursuit donc « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu et nous ne nous relâchons pas. » L'Apocalypse, ce n'est pas à tout accepter et d'attendre comme ça. C'est aussi penser qu'il est temps d'agir et qu'il est temps de semer d'autres graines. Le pire n'est pas totalement assuré. Le jugement aussi appartient à Dieu. Ce monde est encore possiblement à sauver. La grâce est possible. Et la grâce, j'aborde mon troisième point, eh bien, ça pourrait prendre le visage de la sagesse. La sagesse, donc, c'est quelque chose qui est commun à tous les hommes. Il y a des proverbes dans toutes les civilisations. La sagesse, c'est réussir sa vie plutôt que réussir dans la vie. La sagesse, c'est le but de la philosophie. Le sage se contente de vivre, car il aime la vie qu'il reçoit avec reconnaissance. au niveau de montagne. Pour moi, j'aime la vie. La sagesse d'Aristote, ce n'est ni une science, ni une technique. La sagesse, vous rendrez compte son vil, c'est un repos, mais joyeux et libre dans la vérité. Et plus loin, il écrit, la sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. S'il est un savoir, la sagesse est un savoir-vivre, un vouloir-vivre aussi. La sagesse n'a pas grand-chose à voir avec les affreux sages qui sont soumis ou amorphes. La sagesse, c'est de savoir distinguer les choses que l'on peut changer de celles qu'on ne peut peut-être pas changer tout de suite, mais dont il est important de parler. Qui sait ? Un jour, on pourra avec d'autres, et peut-être aussi avec d'autres moyens, tenter de les faire évoluer. Le sage écologiste, je dirais, n'a donc pas renoncé à être prophète. Les prophètes de la Bible parlent parfois comme des sages. L'écologie envisagée comme sagesse, c'est une école d'humilité et de service. Le sage sait qu'il sait peu de choses. Alors voilà ma troisième lecture. Il pourrait nous entraîner sur le chemin de la sagesse. Car notre parabole, elle peut être lue aussi d'une autre manière. Et c'est la troisième lecture sur vos feuilles. Alors déjà, j'enlève l'introduction, le royaume de Dieu est comme cela, parce qu'effectivement, ça ne fait pas vraiment partie de la parabole, et je commence ici. Et donc on a quelque chose, on a trois lignes. Un homme jette la graine sur la terre. Il dort, il veille nuit et jour. Voilà ce qui concerne l'homme. C'est parti là. Et puis là on a de nouveau sept lignes. C'est le chiffre de la création. La graine germe et croît, en sorte qu'il ne sait pas comment. D'elle-même, la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé formé dans l'épi. Et donc, au centre de cette histoire, on a ainsi une grande partie. Voilà, cette partie-là, on ne voit plus rien maintenant, bien entendu, parce que qui serait la partie consacrée à la graine. Et puis on retrouve l'homme, ici, troisième partie, quand le fruit est mûr, immédiatement il envoie la faucille, car la moisson est arrivée. Trois temps donc, le temps du semeur, le temps de la graine et le temps du moissonneur. Et puis, dans la partie centrale, donc de sept sticks, de nouveau, il n'y a qu'un stick central. Et ce stick central, ce serait la terre. D'elle-même, la terre porte du fruit. Et c'est un peu contradictoire parce que, au début et à la fin, on a l'homme. Il y a une vraie tension entre ce cœur de la parabole et son début et sa fin. Mais on peut aussi y lire que pour que le blé se forme, il faut que l'homme se retire. Il accepte d'ignorer comment la graine germe et croît, comment l'herbe devient épi, comment l'épi porte le grain. Alors Jean Valette, qui avait un beau commentaire de l'évangile de Marc, dit à propos de cette parabole, « L'essentiel se passe de son secours et de sa compréhension. » L'essentiel aurait pu se passer de nous. Mais nous ne pouvons pas nous passer de l'essentiel. Telle pourrait être aussi la leçon d'humilité qui se dit ici. Alors vous savez peut-être que nous sommes entrés, paraît-il, dans l'Anthropocène, une nouvelle ère. Une nouvelle ère, c'est-à-dire une nouvelle ère où l'action de l'être humain est le principal facteur de mutation que connaît la planète. Donc l'homme, l'Anthropos, serait donc marquerait de son impact la vie de la planète. Et sans doute que cela est vrai. Mais nous autres, donc, gens de l'Anthropocène, il reste bien des choses que nous ignorons. Nous ignorons bien les secrets du vivant, et c'est peut-être mieux ainsi. Voilà donc trois approches différentes, trois angles d'attaque que j'ai puisés donc dans l'approche de la Bible, hein, la Bible comme loi, la Bible comme recueil de textes prophétiques, et la Bible comme livre de sagesse, c'est que j'ai appliqué finalement sur nos rapports avec le monde, d'un point de vue un peu écologiste. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sans, pour moi, personnellement, ça me donne à penser, donc je ne sais pas. Et en tout cas, j'aime en tout cas terminer sur cette note de nécessaire humilité. Alors, c'est difficile de dire « je suis humble ». Ça, c'est un truc impossible. Il y a un petit proverbe qui dit « l'humilité, drôle de vertu, tu crois que tu l'as, c'est que tu l'as plus ». Donc, voilà. Mais je crois que c'est ça l'écologie, finalement, fondamentalement. C'est un appel à l'humilité, à la sagesse comme humilité. Hein? Penser global et agir local. Peut-être des petites choses, mais des petites choses qui auront un impact réel sur la vie de tous les jours et la vie de tous les vivants. Voilà. Alors maintenant, on peut en discuter, mais Magali, elle a plein de choses à vous dire sur des choses très concrètes, très pratiques maintenant. Vas-y. À moins que vous vouliez en discuter, poser quelques deux, trois questions maintenant et pour laisser le temps à Magali de s'installer. C'est bon. Allez, elle est partie.
Ce que je vous propose, c'est de continuer sur le même plan, peut-être un peu dans le désordre, parce que j'ai noté. Alors au début, je savais pas trop dans quelle salle on serait, donc comme moi, je fonctionne pas mal avec les diaporamas, parce que c'est rapide. J'ai amené mon ordinateur, et ça, c'est une des contradictions qu'on trouve beaucoup chez les écologistes. En général, il y a beaucoup de geeks parmi eux, des gens qui sont fans des nouvelles technologies. Sous prétexte d'économiser le papier, on met tout sur l'ordinateur, et puis on n'est pas toujours au courant de savoir qu'est-ce qui est vraiment plus écologiste, le papier ou les batteries de l'ordinateur. Je ne sais toujours pas. Parce que moi, je n'ai pas fait une formation de technicien, ni rien, ni d'ingénieur. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de voir vraiment qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que les protestants font dans l'écologie, ou plutôt qu'est-ce que les protestants font pour l'écologie, ou plutôt, plus largement, qu'est-ce que les chrétiens font dans l'écologie. Est-ce qu'ils ont vraiment leur place? Est-ce qu'ils se sont déjà posé la question déjà? Et pour continuer peut-être sur le même plan que tu as pris, je crois que tu as commencé avec les écrits concernant la loi. Alors est-ce que les chrétiens agissent au niveau de la loi? Comment ils peuvent faire? Eh ben, moi je dirais, si on fait le parallèle, effectivement il existe un engagement des églises chrétiennes. Et donc je parle à la fois catholique, protestant, orthodoxe, etc. Il existe un engagement des églises chrétiennes au niveau des décisions, au niveau des lois, nationales ou internationales, qui se fait sous la forme de groupes de pression. Bêtement, vous avez déjà entendu parler des lobbies. Ben, il existe aussi des églises chrétiennes qui s'organisent en lobby. Alors souvent pour les écologistes, lobby égale loup ou grand méchant. Mais en fait, lobby c'est tout simplement le groupe de pression. Donc oui, les églises se réunissent parfois, notamment par exemple dans le Conseil œcuménique des églises, pour ensuite adresser des résolutions, des textes où ils disent leurs inquiétudes sur l'avenir écologique de la planète, leurs inquiétudes sur l'avenir du climat et ses impacts sur les populations, en particulier les populations des pays défavorisés, des pays en voie de développement, des pays en voie de non-développement aussi, parce que ça existe. Donc, par exemple, en 2013, la Fédération littéraire mondiale a envoyé des délégués à la conférence des Nations Unies, qu'on appelle COP, en fait, on va dire conférence des Nations Unies sur le climat. Les 7 jeunes délégués sont revenus avec tous la conviction qu'il fallait vraiment agir après au niveau local dans les églises. Donc là, on est plus dans le découvrir global, agir local, mais on est toujours entre les deux échelles. Les églises s'impliquent et savent qu'elles ont un impact au niveau local, dans les communautés, et donc aussi interviennent à ce titre-là, au niveau international, au niveau national. Récemment, vous avez peut-être entendu parler aussi, plus anecdotiquement, mais quand même, du fait que un grand écologiste français qui faisait une émission qui s'appelle Ushuaïa, vous voyez qui je parle, ce grand écologiste est allé voir le pape, par exemple, et lui, c'est un interlocuteur privilégié du gouvernement français quand on a signé, quand le Grenelle de l'environnement a été mis au point, eh bien, cet homme public était vraiment très présent. Et maintenant, il est en train de dire, je l'entends souvent dans les médias, de dire que, eh bien, il faut que les églises s'impliquent parce qu'elles, elles touchent le cœur, l'âme des humains. Et récemment, je l'entendais dire encore, c'est Nicolas Hulot, donc, vous l'avez nommé à ma place, que Nicolas Hulot disait encore récemment sur France Inter que, voilà, il venait de se rendre compte, petit à petit, que on pouvait toujours faire des lois, on pouvait toujours faire des règlements, on pouvait toujours expliquer, faire de la pédagogie, mais qu'à un moment donné, il fallait transformer l'homme. Et pour transformer l'homme, lui pensait que les églises étaient au premier plan, les premiers, les plus efficaces. Bon, il entendait l'église au sens église catholique, sans doute, parce que c'est la plus importante en France, mais ça peut aussi nous concerner, nous. Et la preuve, c'est que on a déjà dans le passé des gens de nos églises qui se sont engagés en tant que chrétiens dans des domaines, en faisant des manifestations, en faisant des mouvements de jeunes, par exemple, en faisant des groupes de pression devant leur mairie, devant l'Assemblée nationale, dans des domaines qui touchent l'écologie, notamment, par exemple, dans le domaine du nucléaire. À un moment, contre l'armement nucléaire, il y avait des groupes de chrétiens qui se sont réunis pour manifester contre. Je crois que Théodore Monod faisait partie hein, de ceux qui ont jeûné contre le nucléaire. Après, on pourrait avancer avec le deuxième point que tu avais pris, je crois que c'est les écrits prophétiques. Hein. Donc, moi, je l'aurais plutôt mis en dernier, en fait. Parce que on entend prophétique souvent dans notre société, dans notre milieu, on entend prophétique souvent au sens d'exemplaire. Mais bon, quand même, prenons-le quand même en deuxième point, et est-ce que les chrétiens agissent de manière prophétique dans le milieu de l'écologie, dans les questions concernant l'écologie? Est-ce qu'ils peuvent donner l'exemple? Alors ça, c'est un débat qui revient souvent, mais finalement, c'est pas très facile pour nous en tant que protestants, par exemple, parce qu'on dit toujours, on n'est pas assez nombreux. Hein, un exemple, c'est idiot s'il n'est pas connu. Et puis en plus, on n'est pas toujours très à la pointe de la communication, donc c'est bien de faire quelque chose, mais si les autres ne le savent pas, c'est un peu dommage. Quoi. Bon, on ne peut pas être exemplaire. Mais bon, prophétique, comme tu l'as bien dit, c'est pas seulement ça. C'est bien aussi annoncer la parole de Dieu, tout simplement. Actualiser la parole de Dieu. Et là-dedans, eh bien, il y a pas mal d'initiatives, finalement, qu'on arrive à connaître si on est vraiment peut-être plus qu'à l'écoute. Parfois, il faut carrément aller chercher des informations. Et ça, c'est plus ce que finalement le réseau Public Création essaye de faire. Donc le réseau Public Création, Jean-Pierre vous disait qu'on en fait tous les deux parties, c'est un petit réseau à l'intérieur de l'Église protestante unie de France. Puis il y a aussi des gens qui sont pas dans l'Église protestante unie, mais qui sont dans la Fédération protestante, on va dire. Donc c'est un petit réseau de pasteurs, de non-pasteurs, on est tous laïcs, de chrétiens engagés dans leur Église localement, qui veulent réfléchir à ces questions liées à l'impact de la vie humaine sur la création, pour aller vite. Et bien ça, le réseau passe une bonne partie de son temps à essayer de mettre en lien, puisque ça s'appelle un réseau, et donc de connaître les initiatives locales. Alors peut-être que vous avez entendu parler, mais peut-être pas grâce au réseau, peut-être que vous avez entendu parler grâce à M6 plutôt, des abeilles de l'étoile. Non ? Alors sur le temple de l'étoile, avenue de la Grande Armée à Paris, vous avez le pasteur Pernod qui s'occupe de ces abeilles. Je crois qu'il a 4 ruches. Et puis après, le miel, il l'extrait donc, dans sa cuisine. Donc il fait tourner l'extracteur de miel. Puis il le met en pot. Donc vous avez une superbe étiquette qui a été dessinée par un ancien catéchumène. Puis il le vend, il le fait vendre par ses enfants à la sortie du temple, du culte. Et on lui demandait, dans le reportage qui est passé sur M6, combien ça vous rapporte. Lui, il disait à peu près 2-3 000 euros par an quand même. Et ça va autant qu'il va pour la réfection du toit du temple ou pour l'entretien du temple. Donc je ne sais pas ici si vous avez de quoi... Hein. J'ai déjà entendu parler du temple du toit d'Annecy, du toit du temple d'Annecy, donc je ne sais pas s'il y a de la place pour mettre des ruches, mais enfin bon, c'est peut-être envisageable. Alors après, évidemment, ça n'existe pas que sur le temple de l'étoile. J'ai aussi vu dans l'ancienne église où le Dietrich Bonhoeffer en Allemagne, à Berlin, des ruches qui sont à demeure. Il y en a une bonne quinzaine. Bon, il y en a évidemment pas mal dans les toits des villes maintenant, parce que on s'aperçoit que finalement elles résistent mieux à la pollution urbaine qu'à la pollution agricole. Vous avez peut-être entendu parler, mais peut-être encore moins connu, des temples qui se sont équipés de chauffage au bois. Parce que la ressource n'est pas loin et que c'est déjà une ressource qui ne voyage pas de par le monde. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est déjà plus écologique. Et puis ensuite, ce n'est pas des chauffages au bois antiques, ce sont des choses modernes, où on sait que les émissions de particules de charbon de bois ne seront pas graves dans l'atmosphère. Ce ne sera pas seulement le chauffage au bois que parfois on trouve dans nos villes et qui est vraiment parabonné ni rien. Donc ce sont des poêles modernes qui ont été mis au point et qui fonctionnent souvent à la cire de bois. Vous avez un temple à Fontenay-le-Comte en Vendée qui fonctionne comme ça depuis 5-6 ans, je crois. Et ça leur a coûté que 2080 euros à l'installation. Ça fait rêver. En tant qu'on connaît le prix des chaudières, moi ça me fait rêver. Et ça fonctionne très bien, et il paraît que c'est l'église le mieux chauffée de la ville. Donc même les catholiques y vont, disait l'article. Donc c'est un article en plus que j'ai lu sur un blog chrétien. Donc, et le pasteur qui a aidé à la réflexion là-dedans, dans cette installation, évidemment, sa première motivation, c'était de montrer que c'est possible. C'est pas parce qu'on est une église qu'on doit forcément se chauffer avec ce que tout le monde utilise et avec des techniques qui datent. Parce que très souvent, c'est un peu le problème dans nos bâtiments, on a des choses qui datent un peu. Et donc, c'est très cher de les remettre à l'ordre du jour et de les moderniser. Et on sait très bien que tout ce qui est ancien, souvent, est moins économique sur le plan de l'énergie. Ça n'a pas été réfléchi comme ça. Et donc, lui, c'était sa première motivation. Et c'est peut-être en ça que, finalement, il actualise quelque part la bonne nouvelle de dire que on a reçu tout ce qu'il faut autour de nous, parce qu'ils habitent en Vendée, il y a beaucoup de bois. On a reçu d'un autre que nous, l'un sème, l'autre moissonne, Jean 4, 26, je crois, 36. Donc on a reçu, l'un a semé, c'est l'homme qui moissonne le bois. Pourquoi aller chercher à l'autre bout de la planète du pétrole, puisqu'on a la ressource qu'il faut? Il faut après actualiser cette bonne nouvelle de la grâce. Finalement, le bois, on pourrait dire, c'est une concrétisation de la grâce de Dieu. Et puis, il faut la prendre au sérieux. Finalement, oui, on peut en faire quelque chose, nous aussi, en tant qu'Église. Donc, je trouvais que c'était... Voilà, en ça, que ça pouvait être quelque chose de prophétique. Sans forcément vouloir être exemplaire, mais en tout cas, vouloir montrer que c'est possible de réfléchir et de changer des choses qui nous paraissent immuables. C'est ce qu'on essaie, ce genre d'initiative, on essaie de le faire connaître par les collègues, par toutes les autres églises en France. C'est ce que le réseau Bibliocréation essaye de faire. Et puis la troisième étape que tu as utilisée, hein, Jean-Pierre, c'était les écrits de sagesse. Alors là, effectivement, nous, on s'y retrouve aussi pas mal avec le réseau Bibliocréation. Moi, c'est ce que je mettrais en parallèle des écrits de sagesse, ce serait, au niveau de l'action, tout ce qui concerne les cercles de réflexion, les associations, les groupes qui se forment et qui organisent Bah, comme vous, finalement, des conférences, des colloques, des semaines thématiques. En fait, j'en connais qu'une en France, et la vôtre. Mais c'est parce que ça s'appelle comme ça. Après, ça peut être des séries de colloques, des séries de conférences. Et là, il y en a vraiment moult, vraiment beaucoup, de plus en plus, depuis que moi j'ai commencé le ministère, il y a 7 ans. Au début, on n'en entendait pas parler. Et maintenant, je n'ai pas le temps de mettre en ligne sur le site du réseau Bible et Création, sur le blog, ou sur le site tant pour la création que je suis censée animer. Je n'ai pas le temps de mettre en ligne tout ce qu'on m'envoie, comme rendez-vous de conférences, de colloques, même de journées de réflexion en église, de formation catéchétique, de formation BAFA pour les jeunes, qu'est-ce qu'il y a encore, des formations bibliques aussi sur ces thèmes-là, etc. J'ai pas le temps, en fait, je suis toute seule. J'appelle aussi, hein, s'il y en a qui ont envie. Et tout ce qu'on m'envoie, et pourtant je sais pas tout, et j'ai pas le temps, on se met beaucoup en réseau avec d'autres. Il n'y a pas que le réseau Bible et Création qui existe, hein, du côté des chrétiens. Il y a, par exemple, Chrétiens Unis pour la Terre, qui est plus d'origine catholique, mais qui est aussi, dont on est aussi membre. On travaille aussi avec Chrétiens et Pic de Pétrole, qui est un réseau lyonnais d'intellectuels qui organise des colloques chaque année. Et là, la plupart sont catholiques aussi. Il y a tous ces organismes organisent un carême pour la Terre chaque année. Donc là, c'est une action, hein, à mettre en place. Ils proposent aux chrétiens de passer un temps de carême en relation avec des thématiques écologiques. Tous ces gens-là travaillent ensemble. Et donc je pense qu'on peut y voir un parallèle avec la sagesse dont tu parlais tout à l'heure, parce que c'est finalement le travail que les églises essayent de mettre en place, et de réfléchir sérieusement, prendre les questions d'actualité au sérieux, s'en saisir, et puis faire leur boulot, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'on peut apprendre dessus en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que chrétien, ou tout simplement en tant que gens qui réfléchissent, et qu'est-ce qu'on peut partager avec les autres. Donc là-dedans, je mettrai aussi tout ce qui concerne de ce que j'ai amené, des choses comme, voilà, vous avez des revues, Prier par exemple, qui a fait tout un numéro sur la liturgie autour du thème de la création, du respect de la création. Donc c'était en... j'ai pas la date, mais voilà, ça date déjà de 2 ans, je crois. Et puis je vais faire de la pub encore avec cette revue Colocataire, donc c'est une revue qui est sortie de l'Alliance biblique française. Hein. Celle-là, elle est sortie il y a aussi 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, plus même. Dedans, il y a un article de votre serviteur, Jean-Pierre. Alors au début, on les vendait, mais je les donne, j'en ai encore pas mal d'exemplaires, vu que je les ai apportés en plus dans un sac qui n'est pas du tout écologique. Si vous en voulez, ça m'évitera d'utiliser ces sacs. En tout cas, j'en ai pas mal. Et en fait, ce sont des études bibliques. Donc ça peut vraiment guider aussi des partages bibliques. Il y a des auteurs comme Jean-Pierre Senberger. Il y a aussi un des fondateurs du réseau Bible Création, Stéphane Lavignotte, qui s'occupe aussi d'autres domaines. Et puis il y a aussi Robin Sauter, qui est l'actuel coordonnateur du réseau Bible Création. Donc à votre bon cœur, monsieur et dame, je les donne. Et puis, on a aussi les collègues suisses qui font, eux, alors, des choses comme ça. Donc ça, c'est OECU, une association écuménique suisse. Ça s'écrit ECU, mais ça se prononce OECU à l'allemande, on va dire. Ils ont sorti ce livre il y a quelques temps, Paroisse verte, guide écologique à l'attention des églises. En plus, il y a des dessins rigolos dedans. Des fois, je les projette, j'ai envie. Et dans le genre... pour économiser l'eau, j'utilise l'eau des baptêmes pour arroser les fleurs. Ça me fait toujours rire. Et en fait, ce guide est fait sous forme de thématiques qui concernent la vie des églises. L'énergie, les déplacements, l'organisation des repas, tout ce qui nous concerne, nous. Et comme il aide les gens, il aide le lecteur donc à réfléchir à comment améliorer ou comment diminuer l'impact énergétique, par exemple, de ces activités typiquement d'église. Et puis on peut prendre un domaine et progresser dedans sans forcément tout rénover sa vie d'église. On n'est pas obligé de se convertir à la sauvage, quoi, du jour au lendemain, sinon ça ne va pas aller. Voilà, donc ça, ce sont des choses que les églises mettent en place. Et puis, une dernière chose que je voulais partager avec vous, donc ça, ça date encore un peu plus, c'est, il y a encore, ça date de juillet 2008, ouais, c'est ça, juillet 2008, les Alsaciens, donc l'équivalent du réseau Biblique Création du côté des églises d'Alsace, Moselle, c'est JPSC, le groupe JPSC Alsace-Moselle, a sorti une série de fiches qui s'appelle « Du temps pour la création ». Alors là, c'est super pratique aussi pour travailler en église, mais pareillement, ils le vendent, mais moi je vous l'offre, j'ai quelques exemplaires. Et pareillement, il y a de la liturgie, des pistes de réflexion et de prédication, et des pistes d'animation. C'est vraiment un livret que moi j'utilise toujours et que j'ai utilisé, et qui est en plus très écologique parce qu'il est sur papier recyclé. Donc celui-là, il est mieux, il est plus exemplaire en fait. Donc vous voyez, on n'est pas totalement hors course. On peut voir que souvent, en s'unissant, on arrive finalement à vivre l'oïkouménisme en respectant l'oïkos. C'est la même racine. Écologie, écuménisme, c'est la même racine. Merci.
Merci à nos deux pasteurs, Jean-Pierre Starberger et Magali Girard. Quand on entend ces intervenants qui sont pasteurs avant tout et amateurs d'écologie, on se dit qu'on peut paraphraser la célèbre citation « L'écologie est trop sérieuse pour la confier à des écologistes ». Voilà, il y a beaucoup effectivement, après vos deux interventions, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à questionner, et donc voilà, un temps de questions est ouvert. Qui est-ce qui veut ouvrir le feu? Je vous rappelle que ce soir, nous sommes en assemblée, comme d'habitude, dans ce genre de réunion. Il y a peut-être, je n'ai pas compté, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais il y a presque autant de catholiques que de protestants. Et c'est bien fait, parce que quand vous faites des réunions, il y a pratiquement autant de protestants que de catholiques dans certaines de vos réunions. Donc, c'est bien normal. Et je pense que devant ces problèmes d'écologie, voilà, on n'a pas employé ce terme, mais vous savez que quand Dieu parle dans la Genèse, il emploie toujours le pluriel. Avdouv et Chavrou, vous travaillerez et vous garderez. Donc il s'adresse à nous d'une manière communautaire. Nous sommes tous concernés. Question ? Pas de prophète ? Dans l'assemblée ce soir.
Je ne savais pas qu'on était aussi impressionnants tous les deux.
Oui. Je pense qu'il faut un petit temps pour. Volontairement, on a préféré que les deux interventions se suivent pour laisser le temps de questions.
C'est pas une question, mais c'est une forme de suggestion. Lorsque vous parlez de. Un homme jette la graine sur la terre, il dort et il veille nuit et jour. La graine germe et croît. J'ai pensé qu'on pouvait remplacer peut-être l'homme par Dieu.
Oui, c'est la deuxième lecture alors.
N'est-ce pas? C'est cela. Et ça m'est venu. Et la graine par l'homme. Mmh, mmh, mmh. Et ainsi, l'homme est appelé à lui-même, seul, à grandir, sous l'effet de la liberté que Dieu lui donne. Ah, dans son retrait du Shabbat, il donne cette liberté à l'homme, et l'homme doit faire ce qu'il a à faire sous la responsabilité. Et la responsabilité, elle va aussi, bien sûr, avec la nature, puisqu'il y a beaucoup de choses concernant la nature dans la Torah, et notamment le respect des animaux, le respect de la terre, le respect des plantes, des arbres, etc. Et c'est cette responsabilité que l'homme a à faire. On ne va pas dire sans Dieu, Dieu est là, sans être là. Il lui laisse la place. Et j'ai trouvé effectivement qu'on pouvait remplacer cette lecture, elle pouvait être autre. Et puis quand vous avez parlé aussi de péché, je voulais dire, mais je pense que tout le monde le sait ici, c'est se tromper de cible, oui. Le péché. Vous le savez bien sûr, mais je aussi. Mais c'est vrai que le dire, parce que ce mot péché, il est tellement particulier. il est difficile à entendre. Tandis que se tromper de cible, et tout ce que vous disiez, en fait, c'est parce que les hommes se trompent de cible. Et là, dans l'écologie aussi, on est en train vraiment de se tromper de cible. C'est catastrophique. Et souhaitons que...
Reconsidérer la cible, effectivement, c'est une question aussi de voir où est-ce qu'on veut aller, hein. C'est cette question-là. Quel est le but qu'on se fixe?
Moi, j'avais appris à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, donc je dénonce, par mon professeur de dogmatique, je dénonce encore, que le péché, c'est quand l'homme se regarde le nombril. Évidemment, c'est se tromper de cible. Mais du coup, par rapport à ce qui avait été dit, il était très pédagogique, faut croire. Par rapport à ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, à la prise de conscience de l'écosystème, l'écologie, c'est une discipline scientifique à la base, effectivement, fondée par un certain Ernst Haeckel, et qui était d'abord scientifique, et lui, il était botaniste, je crois, à la base, formation, et il a voulu mettre en place cette discipline pour l'intérêt qu'elle porte, justement, en relation des êtres vivants, des différentes sphères entre elles. Du coup, si un être vivant se regarde le nombril, il est plus attentif aux relations. Donc effectivement, on voit tout à fait qu'on peut relier péché et problème écologique, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait. Il y a tout à faire. Hein. Mais bon, c'est intéressant par rapport à ce que vous dites.
Oui, vous avez insisté sur l'aspect apocalyptique assez négatif. Et est-ce que vous pourriez donner un éclairage plutôt sur l'aspect écologie et révélation, en tant que révélation?
Bien, alors ça c'est un grand sujet, entre oui. Je ne sais pas, écologie, non mais... Laisse pas tomber comme ça. L'écologie comme révélation, je ne sais pas si... Faudrait peut-être... Je pense qu'effectivement, il y a en tout cas quelque chose de la prise de conscience. Alors, je ne sais pas si c'est une révélation, mais de l'être humain qui est dans, justement, de toutes ses interactions avec le milieu et tout ça. Et peut-être une révélation de se dire que l'être humain ne peut pas vivre tout seul. Et on a un peu parfois l'impression que on mène la planète comme ça, comme si on était la seule créature qui daigne. Mais tout seul, l'être humain, c'est une catastrophe, je veux dire. Et donc, c'est peut-être ça la révélation. La révélation, c'est aussi, dans je reprends le thème de l'Apocalypse cette fois, c'est la révélation du jugement. Et la révélation, donc, de ce qui va arriver et de ce qui nous pend au nez. Et donc la prise de conscience aussi de ce qu'on a loupé la cible. Hein. Donc ça va avec la question du péché, effectivement. Et je ne sais pas si je réponds... Peut-être que vous avez d'autres idées. Hein.
Je mettrais peut-être en parallèle la révélation avec l'espérance. Et c'est vrai que je rejoins un peu l'intervention de madame. J'ai trouvé beaucoup de côté un peu négatif dans ce que tu nous as dit. Et je crois qu'il y a aussi en même temps, alors je crois que ce côté il est nécessaire et il est réel. Et moi j'aime bien quand même mettre un parallèle aussi, c'est garder cette notion d'espérance. Et là peut-être qu'on rejoint l'humilité dont tu nous as parlé à la fin, c'est-à-dire que tout, malgré tout, même si on a une responsabilité, tout ne nous appartient pas. Et là, je rejoins ton petit schéma là, dans la troisième lecture, oui. Avec le premier trio, et j'aime bien au milieu, il dort. Ça me plaît. Et donc, il y a la place pour dormir, c'est-à-dire il y a la place pour laisser faire le Créateur. Et confier un petit peu aussi, parce que finalement, on n'aura pas le dernier mot. Ça rejoint le lâcher prise dont tu as parlé, toutes ces questions.
Autre question ? Oui, vous savez que l'Apocalypse, c'est aussi dévoilement. Et donc l'écologie, on peut se demander si c'est pas la prise de conscience, enfin, de tout ce qu'on a fait depuis le 19e siècle. Et des gens se sont élevés, mais on ne les croyait pas. Et maintenant, il va être temps que l'écologie nous dise où ça nous mène.
C'est peut-être pas tellement en accord. J'ai vu ce matin un dessin assez curieux, humoristique, dans les Américaines, je pense, et où on parle le partage de l'occupation des pains et des poissons. Mm-hmm. Et puis il y a un homme de la foule qui dit « Mais maître, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de gluten dans ce pain ?» Et une femme qui dit « Mais êtes-vous certain, maître, qu'il n'y a pas du mercure dans ce poisson ?»
Enfin, on rejoint d'autres choses, c'est la question de la cache-route et de l'hygiène de vie finalement aussi de ce que, par rapport à ce que nous mangeons, hein. Ça, c'est des choses importantes. C'est le tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le tu aimeras ton prochain comme toi-même, il y a le toi-même aussi. Et il y a peut-être aussi une écologie qu'on a à avoir par rapport à soi-même. D'avoir une hygiène de vie et de ne pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Je pense que c'est peut-être le début d'une écologie, ça. Peut-être pour certains c'est le gluten, etc. Mais...
Je veux partager d'ailleurs quelque chose par rapport à l'alimentation, parce que juste avant de venir, je regardais tout ce qu'on m'avait envoyé comme annonce, et notamment une pour le 6 avril, si je ne me trompe pas, à Paris. Ça se passe souvent dans la capitale, malheureusement. Mais... Donc le couvent franciscain, un couvent franciscain à Paris, je ne saurais pas vous dire exactement l'adresse, mais ils organisent un repas, journée d'amitié, ça s'appelle, et dedans il y a un repas le soir, un dîner, et en fait... Juste en bas de la feuille d'inscription, il y a une petite pomme, il y avait marqué « anti-gaspi ». Alors, je prends mon téléphone et je leur demande pourquoi cette feuille anti-gaspi, pourquoi vous m'avez envoyé ça, parce que journée fraternelle, bon, il y en a pas mal, quoi, mais en quoi ça rejoint notre problématique. Ils me disent « Ah oui, anti-gaspi, ils n'ont pas du tout développé, mais en fait, c'est quand même assez important ce qu'ils font. C'est qu'ils vont d'abord dans les commerçants du quartier, notamment les petites supérettes des quartiers, qui ont beaucoup de déchets, en fait, parce que souvent... petite supérette, elle a moins de clients, donc plus de déchets, à cause des dates de péremption, vont récupérer l'alimentation périmée, et ils en font un repas, et voilà, l'inscription est... Donc on peut payer ou ne pas, voilà, on vient comme on veut. Et du coup, voilà, il y avait aussi cette dimension qui touche pas mal les chrétiens, d'anti-gaspillage, anti-gaspillage parce que c'est pas écologique, mais surtout parce que ça permet de partager plus fraternellement, on va dire. Et c'est là où je me disais, ben... Ouais, ils dorment, mais ceux-là, ils dorment pas, tu vois, ils se sont... Ils savent que le Seigneur fait, mais ils vont quand même chercher. Ils savent que le Seigneur seul, mais ils vont moissonner. Donc parfois, oui, j'entends bien, moi, pour moi, l'espérance, c'est ça, c'est ce qui met en route. C'est pas seulement rester, oh, tout va bien aller, ça, c'est pas l'espérance, c'est le fatalisme, enfin, pour moi. Mais l'espérance, c'est ce qui met en route. C'est ce qui a fait sortir, finalement, le peuple d'Égypte, il me semble, qui les a fait marcher 40 ans dans le désert en râlant pas mal, faut dire ce qui est. Mais en fait, voilà, pour moi, l'espérance, c'est ce qui met en route. Dans ce cas-là, ils se mettent en route, oui, effectivement, ils disent, bon, ben, nous, on peut faire ça aussi en tant qu'Église. Il ne faut pas laisser ça que aux écolos, au groupe écolo 68 arts, ou je ne sais pas, autre chose. Il n'y en a plus beaucoup, d'ailleurs. Ben, ils sont plus tellement écolos, on va dire. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser ça que au groupe écolo, voilà, et nous aussi, en tant qu'Église, tout ce qu'ils nous ont appris, c'est bon. En ça, pour moi, l'écologie est une espérance aussi pour nos Églises, puisque elle permet tout simplement de relire les Écritures avec de nouvelles questions, mais qui sont déjà présentes dans les Écritures. Sauf qu'elles n'étaient pas... La question ne se posait pas pour la même raison. La question de la place de l'homme dans la création, au sein de la création, se pose aussi dans la Genèse, mais pas pour les mêmes raisons. C'est plus pour des questions de salut. Nous, maintenant, c'est pour des questions de salut à court terme. Voilà, c'est ce que je dirais par rapport à cette question de l'alimentation.
Pas d'autres questions. C'est ma femme.
Heureusement que vous êtes là tous les deux, hein, c'est formidable.
Puisque justement vous faites beaucoup toutes ces choses-là, et que dans la Torah, il est bien indiqué, ne serait-ce que de laisser tous les 7 ans la terre en jachère, si on peut dire jachère, mais en tout cas lui la mettre au repos. Pouvez-vous agir aussi là-dessus, puisque vous arrivez à agir par la connaissance? Est-ce qu'au niveau du monde de paysans, peu importe, moi je dirais le côté de la religion là, mais peut-être malgré tout, de pouvoir redire ô combien c'est important, la terre a tellement besoin d'être mise au repos pour redonner sa qualité et surtout de lui donner tellement moins de pesticides et de remettre les animaux, ne serait-ce que les petites coccinelles ou autres, pour aider. Voilà. Et pouvez-vous le faire agir dans ce que vous faites qui a l'air formidable, hein?
Non, mais je pense que le monde paysan se pose toutes ces questions, hein, de toute manière. Hein. Et on a fait alors une journée. Oui, tu étais à Metz, oui. Dans le cadre de Bible et Création, on a été donc à Metz et dans la région de Metz. Il faisait très très froid. Parce que c'était en février, donc il y a 2 ans. Et c'était, on était allé voir les paysans. Pour voir un peu ensemble, c'était très très intéressant. Alors des paysans et puis un collège agricole aussi, et de faire le point un peu sur la qu'est-ce qu'on apprenait aux agriculteurs. Et moi, j'étais très très intéressé par tout ce qui était dit, parce que effectivement, on sentait qu'il y avait une véritable conscience, hein, parce que on imagine toujours les pesticides, etc., etc. En fait, je crois qu'il y a une grosse, enfin, là, on a touché du doigt qu'il y avait une véritable réflexion en tout cas, de certains paysans, de certains agriculteurs, qui sont beaucoup plus au fait de toutes ces questions-là que ce qu'on pense, hein, et qui participent. On ne laboure plus, enfin, eux, en tout cas, ne labourent plus comme autrefois, avec des labours profonds. Enfin, il y a toute cette histoire de renouveau de la terre, etc., etc. Et il y a d'autres. Ils font beaucoup plus attention pour ce qui est des pesticides, etc. C'est sûr qu'il y a des tas de choses comme ça. Et puis l'agriculture biologique, c'est quand même mal. Enfin, on a vu ça, la question de. En Bretagne, hein, finalement, les éleveurs qui s'en sortent en Bretagne, d'après ce que j'ai compris, ce sont ceux qui font de la qualité et qui ne sont pas dans des immenses élevages.
Peut-être on ne peut pas nier. Moi, je crois que la conscience est liée, mais ils sont tellement aussi soumis à des pressions économiques énormes. Mmh. Mais on voit bien aussi le nombre de suicides chez les paysans, parce qu'ils sont pris entre le marteau et l'enclume et avec.
Avec les emprunts et tout ça.
Et... Oui. Parce que là, il y a aussi la loi du profit. C'est une autre loi et qui est terrible.
C'est pour ça que je parlais de péché sociétal.
Ouais.
Hein, c'est pas un tel ou telle classe sociale qui est pêcheur, c'est l'ensemble du système qu'il faut en voir. Mais le développement des AMAP, les choses comme ça, c'est aussi des choses quand même qui sont très très positives et qui vont dans ce sens-là. Alors peut-être.
Donc pour répondre, donc, partie concrète, effectivement, il existe des rencontres rurales dans les églises de la Plaine de Valence, par exemple. Je sais que leur prochain, ils m'ont envoyé pareil, non, j'ai pas le temps de le mettre sur le site. Hein. Leur prochaine réunion, ce sera sur les maisons bioclimatiques. On sait que les agriculteurs ont des facilités pour construire. C'est vrai, parce que le terrain est moins cher, on va dire, pour eux, pour aller vite. Donc ils vont réfléchir à ça, c'est intéressant. Il existe, sans que ce soit dans le cadre des églises, mais il existe aussi beaucoup de réflexions. Sur non seulement les modes de consommation, mais aussi les modes d'habillement, les modes de déplacement que les chrétiens promeuvent, que les chrétiens utilisent, tout simplement. Et vous avez une association dans la Drôme qui s'appelle Ecologia, qui est une association dont le statut est association diocésaine. C'est-à-dire que c'est vraiment au sein de l'Église catholique, mais qui est écuménique. Il y a des membres qui sont d'autres églises. Ecologia vient de naître, hein, c'est né en 2012, je crois. Ils ont déjà organisé des colloques, ça dure 3 jours en général, et c'est au monastère de la Clarté Notre-Dame, à Taulignan, dans la Drôme, et elles mettent en pratique un mode d'agricole, on va dire, qui qui essaye de réfléchir à son impact, notamment pas d'intrants, pas de pesticides, mais pas d'intrants non plus. Et aussi, elles ont été enseignées par Claude et, je ne me rappelle plus le nom de son mari, Bourguignon, qui sont ingénieurs des sols et qui sont bien connus dans le monde écologiste aussi. En tout cas, voilà, donc ce sont, dans les communautés monastiques, vous trouvez beaucoup de gens qui réfléchissent. Il y a la Clarté Notre-Dame, il y a le monastère de Solan. Toutes les communautés monastiques ont des produits souvent qui sont en agriculture biologique et qui donc permettent aux chrétiens engagés, s'ils le désirent, de finalement participer à cette réflexion-là et à cette mise en œuvre. Vous voyez ? Donc oui, effectivement, on peut dire qu'on a des entrées, des portes d'entrée dans le monde agricole, tout simplement parce que le monde agricole n'est pas aussi comme dans les années après-guerre. C'est plus la majorité des Français maintenant. Donc, c'est un tout petit groupe aussi. Donc, pas les laisser tout seuls non plus, parce que c'est nous qui consommons leurs produits. Donc la responsabilité, elle est directement sur nous. C'est facile après de les critiquer, mais si nous, on achète toujours les mêmes choses.
Et je voulais vous raconter ce qu'on a fait avec Laurette à l'occasion de Protestants en fête. Et il y avait différents ateliers, différentes rencontres possibles, et nous, on est allés rencontrer, mais rien que sur le titre, ça s'appelait chapitre 14, verset 61. Les gens du bocage normand. Et alors, le chapitre 14, bon, c'était le Cappadoce, et puis verset 61, c'était l'Orne. Et un groupe de paroisses, d'agriculteurs, mais aussi de petits commerçants, parce qu'il y avait un gérant d'épicerie, etc., et qui essayent de vivre, justement, selon des principes écologiques. Et alors, ils avaient trouvé des débouchés en fournissant des produits pour les cantines scolaires. Et c'était très, très intéressant, en même temps très, très vivant. Ça nous a beaucoup réjouis.
Pour aller dans le sens de ce que disait Magali, l'Agence française de santé a publié, il y a 10 jours, je crois maintenant, des statistiques qui montrent que les agriculteurs en France sont les plus atteints par les conséquences des produits phytosanitaires au niveau morbidité, c'est-à-dire maladie, au niveau mortalité, ils meurent plus jeunes, et au point de vue fertilité. Donc, il y a une prise de conscience, mais entre le moment où on réalise les choses et le moment où ça s'arrange, il faut un certain temps, et le plus tôt sera le mieux. Jean-Pierre disait tout à l'heure, il y a un livre qui dit « Urgence ». Et il y a effectivement « Le temps presse ». Voilà. Encore des questions ?
Le livre sur le temps presse, il date de 86.
Oui, oui, oui. Mais c'est ce que je disais. Je disais, entre le moment où on prend conscience des problèmes et le moment où on commence à réagir et le moment où il y aura des effets positifs.
Il commence à y avoir des effets positifs au point de vue. C'est vrai.
Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut peut-être retenir ce soir, quand même, c'est de l'espérance. Moi, je pense qu'il faut retenir de ça que. Ça m'a rassuré, on n'est pas au courant de tout, mais Magali disait qu'il y a plein de gens, c'est pas toujours des semaines thématiques, mais des gens qui se préoccupent de ça. Il ne faut pas y voir un problème de mode, je pense que c'est un problème de plus en plus de gens prennent conscience et ça va dans le bon sens. Maintenant, je suis conscient, malgré tout votre talent, nous n'avons pas apporté des questions définitives ce soir. Mais vous savez qu'un rabbin disait... Quant à la question, vous avez la réponse, c'est que la question était mal posée. Donc, je ne suis en toute humilité, puisqu'on avait dit qu'il fallait être humble, nous n'avons pas apporté des réponses définitives ce soir, mais j'espère qu'on a tous avancé ensemble. Alors, la semaine thématique se poursuit. Demain midi, c'est notre pasteur Charlotte Gérard qui animera l'étude biblique du midi. Samedi après-midi, les conteuses du diocèse viendront à 17h30 nous faire une représentation de contes bibliques qu'elles ont choisis et elles les ont cherchés exprès pour cette semaine thématique. On leur en est très reconnaissant. Le pasteur Bernard Hordoff, qui est un spécialiste aussi de l'écologie, présidera le culte dimanche matin à 10h. Il y a dans le hall l'exposition de photos, les photos qui ont été retenues pour le concours photo sur ce même sujet, « Où va le monde ?» quand écologie et théologie se rencontrent. On a un paroissien qui nous fait chaque année, pour chaque semaine thématique depuis 14 ans, un tableau qui illustre. Il faut bien réfléchir, il faut le voir de loin. Hein. Mais Mais effectivement, chaque année, ils trouvent à illustrer le sujet, et c'est pas en fonction des sujets qui sont choisis, ce n'est pas évident. Donc voilà, il y aura des corbeilles à la sortie pour ceux qui veulent participer au frais, et nous remercions vraiment très, très chaleureusement de vous intervenir. Oui, j'ai oublié, j'en oublie toujours, mais heureusement on m'aide. Cette année, en plus de l'exposition de photos, nous avons une sculpture. Car une des conteuses bibliques du diocèse nous a fait la gentillesse de faire une sculpture spécialement pour cette semaine thématique, qui est exposée dans le hall avec son titre. Et voilà. Donc merci aussi pour toutes ces contributions. Rentrez bien dans vos maisons et merci d'avoir assisté à cette conférence.
C'est un tableau.